Chers amis, je propose que nous lisions ce soir dans le dernier chapitre de l'épître, le premier épître aux Thessaloniciens. Nous avons hier soir vu le premier chapitre de cette épître et j'aimerais bien lire quelques versets, les derniers versets de cet épître de l'apôtre Paul. C'est-à-dire donc, nous lisons dans le chapitre 5, à partir du verset 12. Or, nous vous prions, frères, de connaître ceux qui travaillent parmi vous et qui sont à la tête parmi vous dans le Seigneur, et qui vous avertissent et de les estimer très haut en amour à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Or, nous vous exhortons, frères, avertissez les déréglés, consolez ceux qui sont découragés, venez en aide aux faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que nul ne rende à personne mal pour mal, et poursuivez toujours ce qui est bon et entre vous et à l'égard de tous les hommes. Réjouissez-vous toujours. Priez sans cesse. En toutes choses, rendez grâce, car telle est la volonté de Dieu dans le Christ Jésus à votre égard. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. Or, le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement, et que votre esprit et votre âme et votre corps tout entier soient conservés sans reproche en la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, qui aussi le fera. Frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous adjure par le Seigneur Jésus, par le Seigneur, que la lettre soit lue à tous les saints frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Vous pensez peut-être, puisque nous avons lu justement ces versets, que c'est une parole d'exhortation très claire et formelle. Et il est vrai, il y a une exhortation très claire dans ces quelques versets. Des exhortations, même des exhortations qui sont très très courtes, mais qui nous parlent aussi, chacun à nous, de nous dans notre cœur. Et peut-être encore ceci, quand il y a une exhortation qui vient du Seigneur par l'Esprit, c'est toujours aussi un encouragement. C'est toujours aussi son amour qui nous parle, c'est toujours aussi son intérêt qu'il a pour chacun de nous. C'est un grand intérêt que l'apôtre Paul, conduit par l'Esprit, avait pour les Thessaloniciens. Il les aimait, nous l'avons vu hier soir. Quelques-uns d'entre vous étaient aussi présents. Nous avons bien vu que l'apôtre les aimait et qu'il avait un vrai cœur pour eux. Parce que c'était aussi une joie pour lui qu'il y avait dans les 3 ou 4 semaines que l'apôtre avait seulement été à Thessaloniki, qu'il y avait encore bien des âmes qui se sont tournés vers le Seigneur, qui ont détourné les idoles et se sont tournés vers Dieu, vers le vrai Dieu vivant, comme nous l'avons vu à la fin du chapitre 1er. C'était une joie pour lui. Et d'ailleurs, nous aussi, nous avons une très grande joie quand nous voyons que quelqu'un se convertit. Quand il y a l'Esprit de Dieu qui travaille dans la conscience et dans le cœur pour le conduire à la confession et à la foi au Seigneur Jésus, le grand Sauveur, qui veut aussi être leur sauveur personnel. C'est une joie pour chacun de nous, certainement. C'est aussi une grande joie quand nous rencontrons quelqu'un que nous n'avons pas connu, D'accord. Donc nous voyons, ah, par quelque chose peut-être qu'il dit, par une sorte de témoignage peut-être, et peut-être même aussi par la tenue que nous voyons, c'est aussi quelque chose qui était important chez les Thessaloniciens. Donc dans la tenue, dans l'attitude qu'ils prenaient, nous remarquons que c'était des personnes qui avaient la vie nouvelle, des personnes qui sont sauvées, qui appartiennent au Seigneur. Ça, c'est toujours une joie de rencontrer quelqu'un comme ça. Donc quelquefois, on n'a jamais vu encore une telle personne, et alors, on comprend, c'est quelqu'un qui aime le même Seigneur que moi, et appartient à ce même Seigneur. Bon, c'est ce que nous avons bien vu, nous avons vu aussi que l'apôtre parlait vraiment de bien de ces Thessaloniciens. Il peut parler de leur œuvre de foi, il a pu parler de leur travail d'amour, il a pu parler de leur patience, de l'espérance dans le Seigneur Jésus. Ce sont trois choses qui nous ont occupés et qui sont de toute valeur et que l'apôtre avait vu. Mais, et c'est ce que nous voyons ici, il a donné beaucoup d'enseignements, il les a enseignés de quelque chose qu'ils n'avaient pas encore connu, par exemple, ils savaient bien que le Seigneur Jésus va venir, ça c'est qu'ils le savaient. Ils savaient aussi que ceux qui appartenaient au Seigneur, ça c'était clair. Ils avaient vu qu'il y avait quelques-uns d'entre eux, peut-être plus âgés, qui étaient décédés, nous disons délogés quelquefois, je connais aussi cette expression, et alors, qu'est-ce qu'il y a avec eux? Alors c'est maintenant terminé pour eux, nous attendons le Seigneur Jésus, il va venir, et il n'est pas encore venu, qu'est-ce qu'il y a avec ces âmes, ces vieux frères et sœurs? Et alors l'apôtre leur explique comment cela, nous connaissons bien sûr ce chapitre 4, où l'apôtre leur décrit très clairement, avec des mots que tout le monde peut comprendre, comment cela va se passer quand le Seigneur Jésus va venir, et qu'alors il va ressusciter ceux qui sont morts dans le Seigneur, et qu'il va alors changer ceux qui sont vivants, et qu'ensemble, en un instant, ils seront donc amenés vers le Seigneur, il vient à leur rencontre pour qu'il les amène dans le ciel, dans les demeures éternelles, dans la maison du Père. Cela, ils avaient compris maintenant, ils le savaient. Et l'apôtre a encore autre chose à leur dire. Premièrement, quelque chose concernant tous ceux qui les entouraient, qui étaient contre eux, il leur faisait beaucoup de peine. Il les calomniait, qui étaient contre eux. Mais alors, pourtant, même à cette assemblée, où il y avait beaucoup de joie, en y pensant, il donne des exhortations. Voyons même dans un cas où dans une assemblée, tout paraît en un bon état, où tout le monde écoute la parole, où il y a de la piété, et pourtant, Dieu trouve bien de nous donner quand même des exhortations. Et nous en avons besoin, de certains. C'est pour cela que la parole le fait. C'est pour cela que le Seigneur le fait. C'est son amour aussi en cela qui nous exhorte. Et nous, comme nous avons vu ici, comment l'apôtre le dit, je trouve ça très très beau. Il ne dit pas simplement « il faut que, frère, etc. » Mais il dit « Or, nous vous prions, frère, de connaître ceux qui travaillent parmi vous et qui sont à la tête parmi vous dans le Seigneur et qui vous avertissent et de les estimer très haut en amour à cause de leur œuvre. » Ah, c'est donc une parole qui s'adresse à l'assemblée locale à Thessalonique. Et il paraît que l'apôtre a vu aussi quelque chose qui n'était pas tout à fait selon la pensée du Seigneur. Le Seigneur avait donné quelques frères qu'il avait peut-être même doué pour cela, mais d'expliquer, de conduire un peu, conduire dans la vérité et de conduire selon la pensée de Dieu, selon les pensées du Seigneur concernant son assemblée. Le chemin, comment il faut aller le chemin, comment nous marchons. Nous connaissons tous cette expression, qu'il s'agit vraiment aussi de la marche personnelle, comme il est important aussi la marche commune, la marche collective. Nous avons aussi une marche collective dans notre environnement, que ce soit chez nous, là où j'habite, ou que ce soit ici, ou que ce soit dans un très grand rassemblement, comme nous en connaissons aussi, que ce soit dans un petit rassemblement. Le Seigneur Jésus prend soin de tous les rassemblements. Et là, il dit, dans les rassemblements, quelquefois, il avait dit à l'apôtre qu'il devait y mettre certaines personnes qui devaient être des conducteurs. Les frères, on les appelle les anciens. Ils devaient être même nommés. Mais il ne le fait pas toujours. Quelquefois, le Seigneur le dit à l'apôtre, et uniquement à l'apôtre, et celui-là à ceux qui directement dépendaient, étaient avec lui, de nommer aussi quelques personnes, et de leur donner aussi un travail exprès dans le rassemblement. Mais ce n'était pas toujours le cas à Thessalonique, non. Mais le Seigneur a fait cela d'une autre façon. Il a donner une certaine autorité morale à des frères qui étaient capables de conduire aussi dans le sens d'expliquer, de présenter la parole, de présenter la pensée du Seigneur, pensant encore à ce qui était nécessaire à ce moment-là, parce qu'il n'avait pas encore le Nouveau Testament, en tout cas pas tout. Il y avait déjà l'évangile selon Luc, paraît-il, parce que l'apôtre en parle une fois, il cite une fois un passage de l'évangile selon Luc en disant que la parole dit, ce qui nous fait comprendre que l'évangile de Luc existait à un certain moment, que l'apôtre le connaissait et reconnaissait que c'était la parole de Dieu. Mais alors, à part cela, ils avaient seulement l'Ancien Testament. Mais dans l'Ancien Testament, il y a tous les principes déjà, pour trouver les principes de la piété, de la foi, de la fidélité, de l'obéissance. Ce sont des choses qui existaient déjà dans l'Ancien Testament, bien sûr. Et alors, c'était certainement les frères qui pouvaient conduire dans le sens, un peu bien le sens dans la pensée du Seigneur. Et alors, ceux-là étaient un peu à la tête. Alors, quelqu'un à la tête, c'est pas bien, n'est-ce pas? Nous sommes tous égaux. Nous sommes tous sur le même niveau. Oui. D'une part, c'est vrai, quant à notre position céleste, quant à notre position devant le Seigneur, nous sommes tous dans le même niveau. Vous me comprenez quand je dis niveau. Mais le Seigneur peut quand même aussi qualifier l'un ou l'autre pour un certain travail, en donnant un don peut-être, ou aussi en le reconnaissant comme quelqu'un qui peut user une certaine autorité dans un bon sens, rassemblement. Et alors, tout simplement, l'apôtre dit, vous connaissez ceux, dans le sens de reconnaissez ceux qui travaillent parmi vous et qui sont à la tête parmi vous dans le Seigneur. Oui, dans le Seigneur. Non pas parce qu'ils voulaient être à la tête, mais parce que le Seigneur les a placés là. Et on pouvait le reconnaître. Vous connaissez cela aussi? Je dois dire que déjà assez jeune encore, je connaissait quand même encore tel ou tel frère qui avait une... qui était à la tête. Pourquoi ils étaient à la tête? Parce qu'ils disaient, étaient conduits par l'Esprit Saint et par la parole. Qui pouvait dire, la parole nous dit cela. Le Seigneur nous fait comprendre que... Et puis, qu'est-ce que nous avons à faire? Écouter, accepter et aussi avoir du respect, avoir de l'amour pour ses frères que le Seigneur avait donné. Je m'appelle alors personnellement aussi d'un frère qui était comme cela, que j'aimais beaucoup. Pourtant, il n'était pas un frère qui était dans le sens normal, très aimable, vous comprenez quand je dis ça. Il n'avait pas une facilité, une, toute une... C'était amabilité qu'on connaît aussi dans le monde. Non, mais c'était quelqu'un qui rayonnait en quelque sorte. Alors c'était quelque chose que le Seigneur avait donné. Et reconnaissant, j'étais frère. Et dans les rassemblements, il y a souvent un ou peut-être deux, ou même trois peut-être frères, qui ont aussi une certaine autorité morale que le Seigneur leur a donnée et qui est aussi composée de leur fidélité dans la marche. Fidélité au Seigneur, fidélité dans la marche, fidélité à la parole. Les voir, les reconnaître et les aimer. Voilà ce que l'apôtre leur dit. Et ne soyez pas jaloux, par exemple. Oui, ensuite, encore quelque chose concernant l'Assemblée. Il est dit dans le verset 33, encore, et de les estimer très haut en amour à cause de leur œuvre. Et puis ensuite, il leur dit quelque chose de tout à fait général. Soyez en paix entre vous. Ça, c'est un mot. Soyez en paix. Surtout dans un temps qui n'est pas paisible. Surtout dans un temps où chacun, dans le monde en tout cas, pense premièrement à lui-même. L'égoïsme, mais l'égoïsme c'est quelque chose qui est dans notre nature, dans notre chair, dans notre nature, c'est ce que nous savons. Et attention alors, si nous suivons cela, nous ne cherchons pas la paix. Ce qui est nécessaire, c'est l'exhortation, ou disons, oui, l'exhortation et l'exemple que nous connaissons dans Philippiens 2. Nous savons ce que, de qui il est parlé là. Parce que estimer l'un plus haut que soi-même, j'espère que j'expliquais. Pardon ?
L'un l'autre supérieur.
Oui, supérieur. Voilà. Si je ne fais pas ça, moi je suis là. Pardon. Et c'est pour la paix? Non, c'est pas pour la paix. Donc, cette attitude que le Seigneur a montrée, nous connaissons ce passage de Philippiens 2 très clairement, voilà une attitude qui est absolument nécessaire pour être en paix entre nous. Et cela veut dire donc, pas d'égoïsme, pas de penser à soi-même, mais de voir aussi l'autre, de voir aussi que le Seigneur a donné à l'autre, de l'estimer, d'en être heureux, d'en être reconnaissant, parce que le Seigneur a donné quelque chose. Est-ce que nous pouvons être reconnaissants pour un grand don que le Seigneur a? Parce que moi, je n'ai pas aussi un aussi grand don, alors je suis jaloux. Ben non. Alors ça n'amène pas la paix. Donc, soyez en paix entre vous. Très court. L'apôtre le dit comme cela. Et ça touche exactement dans notre cœur. Or, nous vous exhortons, frères, et maintenant une vraie exhortation, nous vous exhortons, frères, trois choses. Avertissez les déréglés, consolez ceux qui sont découragés, venez en aide aux faibles. Et le troisième, encore général, plus général, use de patience envers tous. Il y a trois attitudes. On pourrait dire attitude peut-être. La première attitude qui est mentionnée, c'est déréglée. Ah, il y a des personnes qui disent, ah non, moi je pense autrement. Moi, je ne suis pas d'accord. Non, pour moi, ça doit être ça et non pas ça. Ça peut être aussi, par exemple, c'est aussi vrai, dans la deuxième épître, c'est seulement ça, l'apôtre doit parler de ceux qui ne vivent pas dans un ordre, qui ne travaillaient pas avec une bonne pensée, ils croyaient une bonne pensée, ah, le Seigneur va venir, donc c'est pas nécessaire de travailler. J'ai pas besoin de nourrir encore ma famille, c'est pas nécessaire, parce que le Seigneur va venir. Ah, belle pensée? Non, pas une belle pensée. C'est vrai que le Seigneur va venir, et c'est vrai que nous devons l'attendre chaque moment. Et pourtant, le Seigneur nous demande aussi d'être fidèles dans les travaux que nous avons ici sur la terre, dans nos familles, pour le travail, pour tout ce qui est devant nous, et ce que nous devons faire. Ça aussi, c'est déréglé. Avertissez et déréglé. Soyez clair quant à cela. Ne dites pas, ah, je n'ose pas dire. Il faudrait peut-être quand même aussi, quelquefois, dire quelque chose clairement. Les frères doivent dire ça. Ils doivent être clairs. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, selon le Seigneur, est-ce qu'on va la laisser dans l'assemblée comme ça? C'est un déshonneur au Seigneur. Donc il est nécessaire que ça change. Exactement ça doit être le but de ces avertissements et des régler. Ensuite, nous avons un deuxième groupe, consoler ceux qui sont découragés. Ah, c'est une autre attitude. Moi, je voudrais bien, mais je crois que je ne peux pas très bien. Non, je suis trop triste et non, je n'ose pas, moi, je ne crois pas. J'ai dit simplement quelques pensées qui peuvent surgir dans le cœur, dans l'esprit. Hein. Ça, si tu veux nous aussi empêcher de suivre vraiment le chemin que le Seigneur a tracé. Que ce soit par exemple aussi pour la visite des réunions. Ah, non, je suis trop triste. Il y a ça qui m'est arrivé et ça qui me fait. Vous l'avez entendu aussi un frère qui venait mais qui se taisait complètement. Alors, on lui a demandé, ah, je suis tellement découragé, bon, je ne sais pas. Alors, il y a ça et ça qui m'est arrivé. Alors, ça peut être une raison pour se taire, ça c'est vrai. Mais consoler les découragés. Tant que c'est nécessaire, si quelqu'un des frères vient en aide, lui vient en aide, je dis ça en singulier, lui vient en aide. Parce qu'il s'agit de quelqu'un, d'une personne, il s'agit d'un frère. Mais un frère ou une sœur découragée. N'oublions pas ces personnes-là. Consolez-les. Consolez comment? La parole. Pour diriger le regard sur le Seigneur. Parce que le Seigneur, c'est lui qui peut donner de nouveau la joie et le courage pour continuer. Il y a un frère qui est très découragé à cause du décès de son épouse. Je comprends cela très bien. Mais il a besoin de consolation. Voilà ce qui est nécessaire. Consoler les découragés, venez en aide aux faibles. Oui, il y a aussi des personnes qui sont faibles, vraiment faibles, peut-être corporellement faibles, là aussi, nous voulons les aider, faire tout ce qui est possible pour les aider, pour qu'ils puissent encore se réjouir dans, dans ce que le Seigneur leur a laissé, peut-être, parce qu'ils sont malades ou peut-être éprouvés par d'autres choses, ou que ce soit aussi un esprit, dans la vie spirituelle, faible, oui, il y en a aussi. Alors il faut aussi s'occuper d'eux, pas les oublier. C'est ce que l'apôtre dit à mon frère. Nous passons quelquefois simplement à côté, en disant, ah, ce n'est pas mon affaire. Ah, peut-être que oui, c'est mon affaire. Ah, peut-être que je ne pourrais pas demander au Seigneur, tu m'as montré ce frère, cette sœur-là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois m'aider à trouver la bonne réponse. Peut-être à trouver une bonne parole. Nous réfléchissons à cette parole, le Seigneur peut nous conduire et nous amener à un certain passage de l'Écriture. On lit le passage et on lit le passage, peut-être à cette personne fait du lit, lit ce passage et voilà, quelque chose arrive. Celui-là, il commence à comprendre et aussi à suivre. Enfin, vous comprenez, c'est quelque chose qui est aussi là pour dans un rassemblement. Et puis, user de patience envers tous. Alors là, quelque chose de très difficile pour quelques-uns. Certainement, nous n'avons pas toujours la patience qu'il fallait. Et nous avons affaire avec un Dieu qui est un Dieu de patience. Nous pouvons lire, par exemple, en Romains 2, le passage que nous connaissons bien, où il parlait de la bonté de l'Éternel, la bonté de Dieu qui nous a amenés à la repentance. Et c'est là aussi que nous trouvons sa patience et sa longanimité qu'il a envers nous, qu'il avait envers nous déjà, quand nous n'étions pas encore convertis. Il a eu beaucoup de patience envers nous. Il a encore de la patience aujourd'hui encore envers les personnes. Usons aussi de patience. Ce n'est pas toujours tout de suite que quelqu'un a compris. Je l'ai dit déjà 4 fois, alors maintenant, il faut bien qu'il comprenne. Oui, patience. Ayons patience aussi, les uns et les autres. Ça aide beaucoup aussi dans un ensemble de frères et sœurs. Cela montre d'ailleurs aussi, dans un certain sens, qu'on respecte l'autre. Qu'on n'est pas tout de suite là. Et c'est très utile. C'est pour ça que l'apôtre, tout simplement, dit « Usez de patience envers tous ». Alors, il y a des forts et il y a des faibles, il y a des découragés, il y a des déréglés. Il faut les avertir, il faut les consoler, il faut leur venir en aide, mais avec patience et user de patience dans toutes ces activités que le Seigneur, dans sa parole, demande. Prenez garde au mal. Et prenez garde que nul ne rende à personne mal pour mal, mais poursuivez toujours ce qui est bon et entre vous et à l'égard de tous les hommes. Bon, c'est quelque chose que déjà nous pouvons déjà lire dans le sermon du Seigneur sur la montagne, n'est-ce pas? Vous l'avez dit aussi. Dans la loi, il est dit, œil pour œil, voilà, ça c'était la loi. Nous pensons souvent comme ça. Dans le monde, on pense comme ça. Celui qui m'a fait du mal, alors, quelle est la réponse? Je vais lui faire du mal. Et je vais lui répondre de la même façon. Voilà ce qui est l'esprit de notre vieille nature. Être offensé, alors j'offense aussi. Le Seigneur, comment il était. Nous connaissons le passage de le premier chapitre de Pierre, chapitre 3, où il est parlé de l'attitude du Seigneur, qui n'a pas outrage, qui n'a pas répondu à l'outrage, et quand il y avait fallu pour être plus long peut-être. Verset 9. Ne rendons pas mal pour mal ou outrage pour outrage, mais au contraire bénissez parce que vous avez été appelés à ceci. C'est que vous héritiez de la bénédiction. Et je pense encore à ce autre passage. J'ai parlé du Seigneur Jésus, au verset 21, au milieu, Christ a souffert pour vous, vous laissant un modèle afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il n'y a été trouvé de fraude, qui, lorsqu'on l'outrageait, ne rendait pas l'outrage, mais il souffrait, ne menaçait, quand il souffrait, ne menaçait pas, mais se remettait à celui qui juge justement. Voilà. Comment le Seigneur était le grand modèle. Soyons des imitateurs aussi, compassion. Ça peut nous arriver, entre frères, mais ça peut nous arriver aussi dans le monde, envers d'autres personnes. Ah, ce voisin, je vais lui montrer. Vous comprenez ce que je veux dire. Attention. L'Écriture nous dit autre chose que l'attitude que nous devons prendre. Et si nous regardons le Seigneur, ça nous aide beaucoup à suivre vraiment un tel chemin. Pensons à lui. Combien a-t-il tout fait? Combien de mots a-t-il dû entendre? Combien de mal? Outrage, etc. Pas de plainte. Nous lisons ce que les scribes ont dit quand il avait chassé les démons par ses paroles, le chef des démons qui a fait ça. Le Seigneur n'a rien. L'autre passage de l'Épître de Pierre, j'ai lu, faire le bien, là, c'est même l'expression bénissez. Et est-ce que ce n'est pas une parole, quand on bénit, quand on parle du bien à quelqu'un, pas de quelqu'un, mais à quelqu'un, est-ce que ce n'est pas un bon témoignage pour lui? Un bon témoignage, il y a quelqu'un qui veut mon bien. Alors peut-être le cœur s'ouvre aussi pour la parole de l'Évangile, parce qu'ils ont remarqué qu'il y a un cœur qui a aussi de l'intérêt, il a aussi de l'intérêt pour moi. Et puis, réjouissez-vous toujours. Oui, c'est ce que l'apôtre dit ici. Il le dit aussi avec presque les mêmes mots aux Philippiens. Et pourtant, nous savons qu'ici, il avait déjà été en prison à Philippe, il avait aussi été outragé à Thessalonique, il avait déjà beaucoup souffert, et il pouvait éclairer Jésus-Christ toujours. Donc nous comprenons que les Philippiens étaient vraiment, qui avaient bien vu ce que les souverains, les souverains de la ville avaient fait avec l'apôtre et avec Silas, et qu'ils étaient dans le plus profond de la prison. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont plaints, donc ils ont chanté. Et alors le Seigneur a envoyé un tremblement de terre, avec la conséquence que les murs de la prison s'enfonçaient, et puis alors le geôlier avait la crainte que tous les prisonniers étaient partis, etc. Ce qui a amené d'ailleurs encore au salut de cet homme qui a demandé, monsieur, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. Voilà. Réjouissez-vous toujours. Et pour les Thessaloniciens aussi, ils avaient aussi à souffrir surtout des Juifs, de leurs compatriotes, mais aussi des Grecs, ils souffraient, mais ils devaient se réjouir quand même. Et il y a même une parole que les apôtres ont dit au début, quand ils avaient souffert aussi, qu'ils étaient heureux de pouvoir souffrir pour le Seigneur. Dans les actes, on trouve ça dans les premiers chapitres. Heureux d'avoir été digne de souffrir pour le Seigneur. Voilà. Ensuite, encore quelques exhortations, invitations, peut-être aussi plus encore que l'apôtre leur adresse. Priez sans cesse. Il avait prié, il leur avait dit aussi qu'il priait pour eux, qu'il avait toujours leur souvenir devant lui, et qu'il priait, et qu'il rendait grâce. Ensuite, vous voyez, ensuite, en toutes choses, rendez grâce, car telle est la volonté de Dieu dans le Christ et Jésus à votre égard. Rendez grâce. Alors les deux choses sont mises ensemble, et nous connaissons cela bien sûr aussi de Philippiens 4, nous disons que nous pouvons déposer toutes nos requêtes devant lui en rendant grâce avec des actions de grâce. C'est toujours avec les actions de grâce, ça va ensemble, prier et rendre grâce. Et rendre grâce pour ce que nous avons reçu, rendre grâce pour la grande grâce de Dieu, de l'amour de Dieu, de l'amour du Seigneur, de tous les détails dans notre vie où il nous a aidés, rendre grâce pour des réponses à nos prières que nous avons entendues et très souvent nous oublions. Hein. Nous avons présenté au Seigneur une demande, une prière, et puis alors après, peut-être après un certain temps, ça a duré parce que le Seigneur a son moment à lui pour répondre. Et alors, nous oublions de dire et de rendre grâce pour cela. Parce que nous trouvons tout d'un coup que c'était normal. Et bien non, c'était pas normal, c'était la réponse de grâce du Seigneur. Rendons grâce. Rendre grâce, c'est d'ailleurs aussi un très bon moyen pour être et rester heureux. Rendre grâce, c'est aussi un très bonne base pour pouvoir prêcher l'Évangile. Rendre grâce, bien sûr, c'est aussi la base pour toute adoration que nous pouvons apporter à Dieu notre Père, notre Seigneur. Rendez grâce, car telle est la volonté de Dieu dans le Christ à votre égard. Maintenant vient encore un autre petit paragraphe. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon. Cela va ensemble. N'éteignez pas l'esprit. Est-ce que nous pouvons éteindre l'esprit? Je sais qu'on a dit, oui, ce n'est pas possible d'éteindre l'esprit, mais qu'est-ce que la parole veut dire? Éteindre l'esprit, c'est-à-dire éteindre les effets de ce que l'esprit veut. Alors, de le faire taire, c'est ce qui est ici. Et comment est-ce que nous pouvons faire ça? En laissant agir notre chair. Et quand nous éteignons l'esprit ne peut plus nous occuper du Seigneur Jésus. Alors, ce qui nous manque alors aussi, c'est la communion avec le Seigneur. Quand nous faisons comme ça. Et nous pouvons le faire en agissant tout simplement selon notre propre pensée, que ce soit dans notre vie privée. Nous ne demandons même pas, nous ne laissons pas agir le Saint-Esprit. Nous ne sommes même pas intéressés, nous savons bien que faire, alors nous n'avons pas besoin de penser, et alors ça éteint l'esprit. L'esprit ne parle pas à notre conscience, à notre cœur, avec toutes les conséquences mauvaises qui sont attendre. Nous pouvons bien sûr, nous pouvons aussi attrister l'esprit. Nous savons ça. Nous pouvons savoir les Éphésiens. Ne pas attrister l'esprit. Comment attrister l'esprit? Je me rappelle une chose. Un frère a dit, j'étais dans l'avion. Dans l'avion, c'était un avion très moderne. Alors il y avait aussi des appareils où on pouvait voir des films, etc. Pendant le long voyage. Alors j'ai regardé un film. Quel film? Et c'est après que j'ai pensé. Mais alors, l'Esprit de Dieu a regardé avec moi. Vous comprenez la pensée qu'il avait. Moi, j'ai pour ainsi dire forcé l'Esprit Saint de regarder ce que je regardais. Parce que l'Esprit de Dieu est en moi. Attristé. J'ai attristé l'Esprit. Par mon comportement, l'Esprit a dû voir tant de choses mauvaises que je regardais. Nous pouvons attrister l'esprit aussi par le fait de toujours, simple fait, oui, de dire toujours non, non, quand il y a quelque chose, en comprenant bien, par la parole, mais je ne veux pas, ou pas maintenant, etc. Des choses, des répliques comme cela. Nous attristons aussi là l'esprit. Nous savons qu'il y a encore d'autres passages où il est parlé de l'esprit. Les pharisiens ont même attribué à l'esprit, les effets de l'Esprit Saint à des idoles. Et ça, c'est quelque chose de très très grave, ce qu'ils avaient fait les scribes et les pharisiens, sadducéens. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Ah oui, c'est un contexte. Les prophéties, ce sont les paroles que l'Esprit Saint fait dire. Ce n'est pas les prophéties dites dans l'Ancien Testament, parce que c'est la parole écrite. Non, mais les prophéties, le service prophétique, qui est aussi un service dans l'Assemblée. Un service où le Saint-Esprit met son doigt sur quelque chose dans le rassemblement. Pour l'un ou pour l'autre ou pour plusieurs, il fait dire quelque chose sans que le frère qui est employé pour le dire sache s'il y a quelque chose dans le rassemblement. Mais l'Esprit de Dieu le connaît. Alors, l'Esprit de Dieu donne une sorte de prophétie. Alors, attention, il y a quelque chose qu'un frère nous a dit, bon, ne rejetons pas ça, mais acceptons c'est l'Esprit de Dieu qui a parlé. Et nous avons aussi, quelquefois, un frère ou plusieurs ont dit, mais alors, j'ai compris, il m'a parlé. Il m'a parlé directement. Je me rappelle aussi qu'un frère me disait, ah, tu sais, quand cela a été dit, j'ai rougi. Vous comprenez, j'ai rougi parce que je sentais que c'était moi. Alors, c'est aussi la prophétie que l'Esprit de Dieu donne. Et donc, ne méprisez pas les prophéties. Mais approuvez toutes choses. Alors là, oui, aussi, attention, nous pouvons nous tromper. Nous allons bien sûr aussi, ce que la parole nous dit, éprouver par la parole. Est-ce que c'est quelque chose selon la parole? Et oui, quand c'est comme cela, nous devons vraiment, comme il est dit ici, retenir ce qui est bon. Ce sont des attitudes qui sont de toute valeur dans un rassemblement. Ce que nous venons de dire. Et c'est là, vous voyez bien que c'est la vie normale dans un rassemblement. La vie normale dans un rassemblement et aussi dans les heures de réunion. Que ce soit la réunion de dimanche matin, du culte. Attention, qu'est-ce que l'Esprit veut que soit fait? Est-ce que je pense moi? Ou je peux tout simplement indiquer ce principe? Ou c'est déjà une fois que vous faites bien, et je me rappelle encore que tel ou tel frère avait aussi indiqué cela à un certain moment pendant le culte. Tout simplement parce qu'on a un peu habitude, parce que c'est une sorte de. Oui, parce que une sorte de. C'est un peu dur, je comprends. Eh bien non. Demandons au Seigneur, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est maintenant que je dois indiquer ce cantique qui me vient à la tête? Est-ce que c'est moi qui dois dire maintenant quelque chose? Voilà des questions que nous pouvons poser. Ça ne dure pas très très longtemps. Et pourtant, avec ces questions, nous montrons notre dépendance et que nous sommes prêts à écouter aussi la voix de l'Esprit Saint. Ensuite, versets 22 et 23, nous exhorte à la sainteté pratique. La sainteté pratique. Ça commence avec ce qui est très clair. Abstenez-vous de toute forme de mal. Alors, parce que tel mal, oui, je dis non, mais pas, c'est pas si grave. Attention, toute forme de mal. Que ce soit mal doctrinal, que ce soit mal moral, abstenez-vous de cela. Dites non à ces choses-là. Par exemple, quand je pense aux jeunes qui aujourd'hui ont beaucoup à faire avec aussi ces appareils des PC, des computers, et puis alors avec les programmes qui peuvent y être, n'est-ce pas? Abstenez-vous de toute sorte de mal. Alors ne cliquez pas là, mais dites non, je ne vais pas faire ça. Et quand il y a quelque chose qui arrive, tac, fermons. Tout de suite. Abstenez-vous de toutes sortes de mal, s'il y a par exemple aussi. Et puis ensuite, or le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement. Voilà, d'abord, c'était une responsabilité que nous avons, qui est mentionnée dans ce verset 22, et ensuite nous trouvons aussi que Dieu lui-même prend aussi soin de nous. Or le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement, c'est un désir, c'est un souhait de l'apôtre, et que votre esprit et votre âme et votre corps tout entier soient conservés sans reproche en la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors après ce que je vois, c'est le seul passage où nous trouvons les trois parties de notre personne. mis notre esprit, notre âme et notre corps. Tous les trois sanctifiés, c'est-à-dire agir avec ces trois selon le Seigneur, selon sa sainteté. Commençons peut-être avec le corps. Attention, ne faisons pas avec notre corps, ne faisons rien qui pourrait être un mal contre la pensée du Seigneur. Nous ne pouvons bien faire ceci ou bien faire cela, oh, c'est égal, je peux. Eh bien non, que ce aussi notre corps soit sanctifié. Parce que notre corps est aussi l'habitation de l'Esprit Saint. Alors attention, nous ne pouvons pas faire n'importe quoi avec notre corps. Il appartient au Seigneur également. Et puis, quant à notre âme, ce sont les sentiments, les émotions qui nous arrivent. Attention là aussi. Disons aussi à nos stops. Cela me mène à quelque chose qui n'est pas utile, qui n'est pas selon la pensée de l'Écriture du Seigneur. Par exemple, toutes sortes de... Il y a des groupements où l'on fait beaucoup de choses avec des émotions, avec où l'on fait beaucoup de mouvements, beaucoup de choses extérieures qui incitent nos émotions. Vous comprenez comment je dis ça? Attention, n'y entrez pas dans ces choses-là. Ils appellent encore ces groupes. Charismatique, par exemple. Toutes ces dans cette direction. Allez. Et aussi, bien sûr, quant à nos sentiments naturels, personnels, attention là aussi, ne nous laissons pas entraîner par quelque chose, ni par les personnes. Là aussi, le Seigneur veut nous garder. Et quant à notre esprit, la même chose. Ne nous laissons pas influencer par ce qui paraît être très intellectuel, très haut élevé, et qui pourtant est quelque chose qui édifie l'homme et non pas notre esprit qui appartient au Seigneur. Et peut-il y avoir ça, peut-être même dans un certain sens, nous sommes très très clairs, et dans l'autre, peut-être pas. Alors c'est pour cela qu'il est dit tout entier, conservez, oui, et votre corps tout entier soit conservé sans reproche. Et le mot entier est au pluriel, c'est-à-dire où les trois choses sont mises ensemble. Alors là, conservez sans reproche. C'est une sorte de sanctification. Sanctification veut dire séparer pour le Seigneur. Non pas pour autre chose, non pas pour les choses qui ont de l'intérêt dans le monde, qui ont de l'intérêt pour l'homme naturel, pour notre chair. Et la phrase après, est une phrase très encourageante. Celui qui vous appelle est fidèle. Qui aussi le fera. Alors, nous avons bien vu les deux choses. D'une part, responsabilité de notre côté, de pouvoir vraiment dire non à ces choses qui ne sont pas utiles pour notre vie spirituelle, mais aussi la confiance que le Seigneur, il va s'en occuper aussi. Et sa fidélité là. Il est fidèle à sa promesse de nous garder, de nous sanctifier, de nous garder sans reproche, et alors il le fera, il est dit l'apôtre, il le fera. Soyez sûrs, je vous assure, il y a un Dieu qui est plus fort, et qui, il faut avoir cette attente aussi, qui le fera, qui vous gardera. vient encore la fin. L'apôtre maintenant dit encore quelque chose de très personnel. Je trouve ça aussi très beau. Priez, frères, priez pour vous. Priez pour vous. Il ne dit pas comme moi j'ai prié pour vous, comme moi je prie pour vous, mais c'est vrai quand même. Il le fait. Priez pour nous, c'est-à-dire certainement l'apôtre Pierre, plus Silas, plus Timothée, ceux qui travaillent ensemble, priez pour nous. Nous avons besoin. Non seulement que nous avons besoin d'être gardés, dans un autre passage aussi dans cet épître, il dit aussi, ou dans la vision, il dit aussi qu'il y a des personnes qui veulent leur faire du mal. Mais Dieu les protège, Dieu les aide. Mais aussi, ils ont besoin aussi d'être protégés de tout ce qui pourrait être une sorte de d'indépendance. On peut penser facilement, quand on est un frère qui a un don et qui a aussi un service, alors ça, c'est à moi de faire ça. Et moi, je vais faire. Et d'avoir peut-être la confiance en soi-même. Il faut être gardé de ça aussi. Restons dépendants de notre Dieu, dépendants du Seigneur, aussi de l'Esprit, qui toujours veut non pas nous édifier, nous élever, mais qui l'Esprit de Dieu veut toujours élever le Seigneur, le révéler et l'élever aussi pour nous. Priez pour nous. Ensuite, saluez tous les frères par un saint baiser. Un saint baiser, oui. Sainteté aussi, dans l'affection, expression d'affection pour les frères, l'un pour l'autre. Ne faisons pas de différence quant à cela. Il est vrai que quelquefois un frère nous est plus proche que l'autre, nous connaissons cela. Ça c'est assez normal. Il y a peut-être aussi un frère qui me paraît plus être plus près de moi parce que sa pensée, je trouve que sa pensée est une pensée que j'aimerais bien aussi avoir, une pensée qui me plaît, une pensée qui aussi m'édifie, voilà. Alors j'ai peut-être une affection spéciale pour un frère, vous comprenez quand je dis ça. Ça peut être, ce sont alors des amis spirituels, vraiment. On peut aussi, comme frère, on peut avoir un ami, des amis. Je pense à vous, les plus jeunes. Attention, cherchez ces amis-là avec lesquels vous pouvez avoir de la communion devant le Seigneur et avec lui. Vous pouvez prier ensemble, vous pouvez lire la parole ensemble. Pour cela, on édifie, cela vous aide, vous aidez l'un l'autre. Très utile, c'est que le Seigneur permet et bénit aussi de telles communions que aussi les jeunes et bien sûr nous tous peuvent avoir. Je vous adjure par le Seigneur que la lettre soit lue à tous les saints frères. Alors, l'apôtre est aussi tout à fait pratique. Il dit, cette lettre doit être lue à tous les frères. Ils ne savent pas tous lire. Parce que c'était comme ça aussi. Ça pourrait être, mais quoi. Ils doivent tous le connaître. Alors il faut lire ça à tous les frères. Je trouve ça une remarque très très simple, mais très utile. Lisons cela. Lisons aussi d'ailleurs les lettres. Lisons aussi la parole. Lisons cela à haute voix. Nous le faisons dans les réunions, mais lisons-la aussi à haute voix devant nos familles, dans nos familles. Et c'est utile parce que, aussi, quand vous. Et encore une petite pensée. Quand vous lisez la parole, je parle maintenant plus jeune, bien sûr. Et quand vous lisez et quand vous priez, essayez de le faire à haute voix. Pourquoi ? parce que ça tient davantage la pensée. Ça aide à ne pas être détourné par quelque chose qui arrive, qui peut arriver. Faites ça à haute voix. Et d'ailleurs, à haute voix, vous le dites, vous le parlez, vous vous entendez même parler, et vous entendez vous-même parler, ça aussi entre davantage dans votre mémoire. Vous gardez cela. Nous faisons ça plusieurs fois répété, et ça reste dans la mémoire. Et la même chose aussi avec le fait de lire quelque chose à haute voix, et aussi de prier à haute voix, parce qu'alors on n'a pas détourné de toutes sortes de choses. Et peut-être même d'une pensée qui me vient aussi à la tête. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Encore une fois, cette demande, ce souhait de l'apôtre. Et qu'en lisant cela, il est adressé aux Thessaloniciens, il est adressé aussi aujourd'hui à nous tous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, soit avec nous. C'est ce que nous souhaitons vraiment de tout cœur. Parce que nous avons très besoin, et parce que nous savons que juste cela, le Seigneur veut nous donner. Il veut que nous soyons gardés et conduits et édifiés par la grâce qu'il a eue pour chacun de nous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous.